Ouais, deux, trois. On a une liste de volontaires qui ont été triés sur le volet, qui sont donc désignés d'office. Alors bonjour à tous, surtout à tous ceux que j'ai pas encore pu saluer. On était vraiment navrés de pas être là pour le culte de dimanche dernier. On a eu que des échos très très positifs du culte qu'a organisé le groupe de jeunes. Donc merci à tous les jeunes qui ont fait ça. Merci à JB de gérer si bien le groupe de jeunes. Je sais qu'il n'est pas là, mais vraiment on est bénis de vous avoir les gars dans notre église, et merci pour tout ce que vous avez. Vous avez vraiment travaillé depuis des mois pour ce culte, donc merci pour votre taf. Alors, nous, on est en train de arriver vers la fin d'une série sur une lettre de Paul à un plus jeune, un responsable d'église, Timothée. Donc, on est dans 2 Timothée. Et on arrive maintenant vraiment au cœur de la lettre. Et si vous avez suivi jusqu'à maintenant, vous vous rendez compte. Donc, je vous donne le numéro de page, comme ça on est tous. On a la page 784 dans la Bible blanche. Et si tu n'as pas de Bible, tu peux encore lever la main et on t'en donnera une. Non, ouais, encore quelques Bibles, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas de Bible chez vous, prenez cette Bible, on vous l'offre avec plaisir. C'est juste un cadeau de 1,90€, donc désolé de ne pas faire plus, mais prenez-la, lisez-la. On est en train d'arriver à la fin de donc 2 Timothée, page 784. Et si tu as suivi jusqu'à maintenant, tu vois l'importance que ce livre met sur la Bible pour tenir bon. On a besoin de savoir ce que Dieu nous dit pour pouvoir vivre au quotidien. Et l'apôtre Paul est à la fin de sa vie. C'est vraiment le dernier livre qu'il a écrit. Dans notre texte, on va voir qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Probablement exécuté pour sa foi. Il sait qu'il va mourir. Il est en train de donner ses dernières instructions à quelqu'un avec qui il a cheminé pendant des années. Il lui a montré comment vivre la vie chrétienne. Il lui a montré comment prêcher la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. Et on arrive au chapitre 4, verset 1. Ce sera 8 versets ce matin. Et à la lumière de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il arrive sur les paroles, l'ordre le plus fort de toute cette lettre, et en fait des 3 lettres qu'on appelle les lettres pastorales, 1, 2 Timothée et Tite. C'est très très fort. Et c'est super qu'Élie nous ait lu un long texte, une longue histoire de Élie, avec ce choix entre l'idole Baal et le vrai Dieu. Ce choix qui est là, parce que nous on ne se rend pas forcément compte qu'on est face un choix, mais en fait tous les jours il y a une lutte pour notre cerveau, pour notre cœur. Est-ce que je vais croire ce que Dieu me dit à propos de la vie, à propos de l'existence, du but de l'univers, ou est-ce que je vais croire ce que disent les autres qui rejettent Dieu? Et c'est souvent pas présenté comme ça. Je regarde plein de films, des séries et des choses comme ça. On ne se rend pas compte des messages qui sont véhiculés dans ces superbes histoires. De ce gars qui tout lui réussit parce qu'il est super intelligent et il a une super baraque et tous les appartements dans ces séries sont juste magnifiques. Et on a envie de ça. Juste ça, c'est... Est-ce que, à la lumière de ce que Dieu nous dit est important, est-ce que c'est important que j'ai cette baraque-là? Des questions comme ça sont constamment... Les enjeux sont constamment là, dans notre quotidien. Et on va voir ici plus clairement de quoi il s'agit. Mais Élie nous a aussi lu, j'ai jamais lu Darwin, entendu Darwin dans un culte. C'était bien, merci Élie pour cette lecture de Darwin. On est vraiment face à 2 choix. Est-ce qu'on est le produit du hasard, ou est-ce qu'on est le produit d'un désir, d'un plan de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment... Un ingénieur, un créateur derrière l'univers qui a voulu que tu existes, qui a voulu qu'on soit là ce matin. Et souvent, on croit des choses sans s'en rendre compte. Moi, je pense à mon petit frère, un de mes petits frères, j'en ai pas mal, donc comme ça, je ne vous donne pas de nom. Mais à l'âge de 4-5 ans, il est arrivé à la conviction qu'il y avait des singes qui habitaient dans le grenier. Je pense à commencer un jour où il y avait un coup de vent qui est passé et qui a soulevé la trappe du grenier. Et depuis ce jour-là, il était convaincu que les singes avaient envahi le grenier et il voulait jamais être tout seul en haut. Et ça lui a pris des années pour contrer cette fausse conviction. Il était persuadé. On pouvait lui montrer le grenier, on pouvait monter en haut, ouvrir le grenier, mettre de la lumière partout. Non, mais ils sont cachés quelque part, c'est sûr. Et on a plein de choses où on est convaincu qu'on ne peut pas croire en Dieu, on est convaincu, ou alors on prend des choix de vie sans réaliser qu'il y a derrière des a priori, il y a des convictions qu'on n'a jamais questionnées, qu'on n'a jamais remis à plat. Et donc on arrive à notre texte. Et si tu n'es pas chrétien ou tu te poses des questions sur ce que dit ce livre, sur Dieu et sur la vie, c'est peut-être important de mentionner avant qu'on lise le texte que le christianisme n'est pas une religion de pragmatisme. C'est très fréquent, encore récemment, on a eu des inondations ici il y a quelques semaines, et un des pompiers nous a dit, après avoir tout nettoyé avec nous, c'était vraiment, vraiment sympa l'équipe qui était là, quatre casernes d'ailleurs étaient là, l'un des pompiers a dit, ouais, bon, moi je suis pas religieux, mais les religions c'est très important, parce que ça, dans les moments de grande crise et de détresse, ça empêche les suicides collectifs. Voilà, donc pour lui, c'est quand il y a une tragédie nationale, quand il y a des guerres, quand un pays souffre, bon, c'est vrai, c'est utile, parce que ça nous empêche de désespérer complètement et de tous se flinguer, quoi. Ah, bon, ça c'est le pragmatisme. Et on l'entend régulièrement, ah bah si la religion marche pour toi, très bien, chacun son truc. Le christianisme n'est pas une religion pragmatique. Prouve-moi que Jésus, par exemple, n'est pas ressuscité d'entre les morts, trouve-moi son corps, et je dois renoncer au christianisme. Le christianisme est une question de vérité ou de mensonge. Soit c'est complètement vrai, et ça vaut la peine d'y croire entièrement, et de donner toute sa vie pour ce que Jésus veut pour nous, soit franchement on est cinglé de croire ce que dit ce livre. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Allez, on lit le texte. Donc, page 784, chapitre 4, versets 1 à 8. Je vais lire dans la version des Bibles blanches, et ensuite je vais quand même souvent faire référence à une autre traduction, parce qu'il y a quelques tournures qui sont bien mieux rendues dans la traduction Colombe. Mais vous allez voir, je ne vais pas vous perdre. Allez, on lit. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprends et encourage. Fais tout ça avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Et jusque-là, c'est la parole de Dieu. Je vais prier. Père, on a les paroles mêmes que tu as inspirées à Paul à travers ton Saint-Esprit. S'il te plaît, ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, pour entendre ce que tu veux nous dire à travers ces 8 versets, à travers 2 Timothée. S'il te plaît, fais de belles choses dans nos vies à travers ce texte. Et s'il te plaît, Père, donne-moi la clarté, la simplicité de dire tout ce que tu dis et rien de plus et rien de moins. Amen. Vraiment, ce texte nous dit que puisque la bonne nouvelle de Jésus est au centre de ce livre doit être au centre de notre Église, doit être au centre de nos vies. Puisque la bonne nouvelle est là, elle est racontée là, tout ce que Dieu veut qu'on sache sur tout ce qui est important à ses yeux est là dans ce livre doit être au centre de notre Église et doit être au centre de nos vies. Et le texte est assez simple à découper, on va juste procéder comme ça. On a dans le premier verset un appel aux témoins. C'est vraiment ce verset très solennel. Un appel aux témoins, on va regarder ça. Ensuite, il y a l'ordre qui est donné, qui est l'ordre probablement le plus solennel, le plus chargé des trois lettres que Paul a écrites à des collaborateurs. Et ensuite, on va regarder deux raisons qu'il donne pour cet ordre. Et les raisons, vous pouvez les voir dans la seconde 21, donc la Bible blanche. Le mot-clé, c'est « en effet ». Au verset 3, il va dire « en effet, un temps viendra ». Donc ça, c'est la raison numéro 1. Et verset 6, il dit « pour ma part, en effet », c'est la raison numéro 2. Okay, donc le texte est vraiment simple. Verset 1, les témoins. Verset 2, l'ordre. Verset 3, jusqu'à la fin, on a deux raisons pour cet ordre, pour ces instructions. Alors, les témoins, regardez ce qu'il fait l'apôtre Paul. Je vais vous lire dans une autre traduction qui est un peu plus proche du grec, en même temps qui reste jolie en français. « Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Il prend donc Dieu le Père et Dieu le Fils comme témoin avant de donner ses instructions. Et ensuite, il mentionne trois événements qui sont aussi des témoins, si vous voulez. Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, le jugement. Il parle du retour de Jésus au nom de son avènement. C'est une autre façon de parler du retour de Jésus. Et au nom de son royaume, Dieu va revenir. Donc toutes ces choses, on dit, si c'est la première fois que tu lis ce livre de la Bible, ça peut vraiment sembler bizarre. Ça parle de quoi tout ça? Pourquoi c'est si important, avant de donner des instructions, de parler de Dieu le Père, de Dieu le Fils, du jugement, du royaume et du retour de Jésus? Parce que tout le monde est tenté, dans les chapitres précédents, il raconte plein de personnes qui sont en train d'abandonner Jésus, qui sont en train de douter. Est-ce que c'est vrai, ce en quoi on a cru? Ils sont en train d'hésiter. Ils commencent à avoir peur pour leur vie parce que c'est dangereux de croire en Jésus. Dans un empire où on te met à mort, si tu dis que Jésus est le Seigneur et pas l'empereur. Et donc Paul, avant de donner son instruction la plus solennelle, il remet les choses en perspective. Et on a besoin tous les jours, je pense, moi le premier, de remettre les choses en perspective. Et si on croit en tant que chrétien des choses dingues, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Paul, dingue, absolument incroyable. On croit que Jésus, qui a été crucifié, est mort pour nos péchés. On croit qu'on était tous, sans aucune exception, moi le premier, pécheur, rebelle, on était insoumis à Dieu. On l'avait rejeté, lui le bon créateur, on lui avait donné un doigt d'honneur, on avait tourné le dos, on voulait rien de lui. On voulait vivre notre propre vie, on voulait être nos propres maîtres. Et c'est peut-être encore ton cas. Et Dieu, dans son grand amour, a envoyé son propre Fils mourir à notre place. Pour que nos péchés, au lieu qu'on soit puni pour nos fautes, nos péchés soient portés par Jésus et que Jésus soit puni à notre place. C'est un truc de dingue! Que le Dieu de l'univers punisse son propre Fils à notre place, nous, alors qu'on ne méritait rien de tout ça. Donc il parle, je t'en supplie, je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger. Autre chose dingue, il va revenir et tous ceux qui auront rejeté cette offre de salut, cette offre de libération, cette offre de pardon des péchés, ils seront jugés comme des rebelles. Et on n'est plus dans un pays avec un roi, mais on peut très bien comprendre, un roi a le droit d'écraser toute rébellion parce que c'est lui le maître. C'est juste, c'est inadmissible que la rébellion subsiste dans son royaume. Et si je ne crois pas en Jésus, si je ne suis pas détourné de mes fautes et si je n'ai pas crié à lui pour qu'il me pardonne, je serai écrasé par ce juste juge. Et enfin, il parle du retour de Jésus et de son royaume. Tu n'as pas été créé pour ce monde qui est vraiment une galère. Tu n'as pas été créé pour ce monde qui est plein de souffrances, de frustrations et de peines. On a été créé pour un monde où Dieu était le roi. Et nous, on était ses sujets et on était heureux à être en relation avec lui. Et Paul rappelle tout ça. Il prend Dieu le Père, Dieu le Fils à témoin. Il rappelle ces grands événements de l'histoire. Et si tout ça, c'est vrai, si un Dieu existe, qui a tout créé, qui a tout fait pour nous remettre en relation, en communion avec lui-même, pour effacer nos péchés, si tout ça c'est vrai, alors l'ordre est logique, est nécessaire et ce serait un crime contre l'humanité de ne pas faire ce que Paul lui dit. Prêche la parole. Parce que la Bible contient cette bonne nouvelle. Il l'a dit précédemment au verset 14. Quant à toi, tiens ferme à ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Ces Saintes Écritures ici. Tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Un salut où, si tu crois que Jésus est mort pour toi, tes fautes, tes péchés sont pardonnés. Cette nouvelle-là est dans ce livre-là et ce serait un crime contre l'humanité par crainte des représailles, par honte de ce message de ne pas prêcher la parole. De ne pas annoncer cette bonne nouvelle. C'est pour ça que Paul prend à témoin Dieu. Prend, rappelle les grands événements de l'histoire. Parce qu'on s'en fout de quelle note tu vas avoir au bac. On s'en fiche royalement qu'est-ce que les gens pensent de toi ici-bas. La question, c'est comment est-ce que Jésus va te recevoir à la fin de l'histoire du monde. En tant que juste juge, est-ce qu'il va te recevoir comme son sujet parce que tu as mis ta confiance en lui qui est mort à ta place, ou est-ce que tu vas continuer à le rejeter toute ta vie? On a cette bonne nouvelle, on peut être libéré de nos péchés, on peut être réconcilié avec notre Créateur. Et c'est la seule chose qui compte, c'est qui est Dieu et quel est ton statut vis-à-vis de Dieu. Ça c'est les témoins. On ira un peu plus vite pour le reste. C'est l'ordre le plus solennel, c'est super important. Prêche la parole. Et donc, deuxième question, c'est quel est cet ordre? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, on a déjà abordé pourquoi c'est si important. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur l'importance, sur les dangers, tout ça. Mais regardez la manière par laquelle on doit prêcher la parole. On avait dit dans cette série qu'une des raisons pour cette série, c'est qu'on comprenne le rôle des responsables. Donc Mathieu, Bruno et moi, on est les trois pasteurs de l'Église, notre responsabilité envers vous. Si on ne vous prêche pas la parole, et si on ne fait pas tout ce qui est dit ici, si on n'insiste pas en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, si on ne réfute pas, si on ne reprend pas, si on n'encourage pas, si on ne fait pas tout ça avec une pleine patience et un entier souci d'instruire, il faut que vous priez pour nous et que vous veniez nous voir. Parce que notre responsabilité envers vous est une question de vie ou de mort. on a besoin de vous dire ce que Dieu dit. Parce que c'est la plus grande nouvelle de tous les temps. Je veux souligner juste quelques aspects de la manière dans laquelle on doit prêcher la parole. Dans beaucoup de traductions, le mot prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, beaucoup de traductions mettent convainc. Et on a la même chose au verset 16, juste au-dessus, le verset pour enseigner, pour convaincre. C'est super important que chacun d'entre nous soit convaincu des choses qu'on croit. La prédication ici, le dimanche matin, à aucun moment, c'est du lavage de cerveau ou simplement tu dois juste répéter suffisamment ce que le prédicateur a dit pour enfin le croire. Viens nous voir si ce qui a été dit ne t'a pas convaincu. Si au contraire tu crois autre chose, viens nous voir pour qu'on puisse en discuter. On doit être plein de patience les uns envers les autres pour qu'on en soit pleinement convaincu, parce que c'est tellement important ce que Dieu a dit dans ce livre. Viens nous voir, s'il te plaît. Deuxième chose à remarquer, pourquoi il faut de la patience? On oublie ça. C'est que depuis notre rébellion contre Dieu, parce qu'on est pécheur, on est brisé. Notre cerveau ne fonctionne plus comme il aurait dû fonctionner si on avait vécu dans un monde en harmonie avec Dieu. Notre cœur, nos émotions ne fonctionnent plus comme ils devraient depuis qu'on s'est séparé de Dieu. Et donc on a besoin d'énormément de patience parce que le changement, la compréhension va prendre du temps parfois. Mais s'il te plaît, cherche à être convaincu. Recherche la religion chrétienne. Ce que Jésus a fait, ce n'est pas quelque chose juste pour ceux qui ont besoin d'un petit plus dans la vie. C'est une question de vérité. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Et si c'est vrai, ça change tout. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les manières, mais on va s'arrêter là et on va venir aux deux raisons et on va revenir sur certains aspects après à cause de ça. Mais quelles sont les deux raisons que Paul donne? Pourquoi est-ce que cette parole est si importante? Pourquoi elle doit être annoncée, prêchée? Que l'occasion soit favorable ou non. Et ça, en tant que prédicateur, celui qui prêche actuellement à Pont le plus souvent, je vous dis, c'est vraiment, vraiment important que Dieu nous dise qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait envie ou pas. Parce qu'il y a des semaines où juste on se dit, mais qui suis-je pour venir prêcher? Où j'ai vraiment, moi-même, je suis en train de lutter. Je vous ai raconté ça dans le passé, dans les mois avant mon genre de burn-out, d'épuisement. J'étais en train de gober le mensonge que je serais plus heureux si je n'étais pas chrétien, ou je serais plus heureux si je ne pouvais pas avoir des responsabilités dans l'église, et je pouvais aller juste me faire plein d'argent à Paris. Et c'est bête de le dire, j'ai honte de le dire. Mais on est constamment en train de lutter. Entre une vision du monde sans Dieu et ce que Dieu veut pour nous. Et donc deux raisons pour lesquelles Timothée doit prêcher la parole. Première raison, c'est verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et il faut savoir que moi, le premier, nous, les premiers, notre cœur étant encore avec le péché, on a une lutte entre ce que Dieu dit et on veut ce que Dieu veut. Et en même temps, il y a des restes de notre péché, notre ancienne nature avant que Dieu nous a transformé, nous a donné la nouvelle vie. Mais il y a encore des restes de cette ancienne façon de vivre. Et on doit lutter contre ça. Et on sent que parfois on sait que c'est ce que Dieu veut. Et on a tellement envie d'aller à Paris. Et de lâcher l'église. Et de se faire plein de thunes. Et de s'acheter un bel appartement tout en haut et avec vue sur la tour Eiffel. Et donc on a besoin de cette parole, parce que tous les jours, elle vient nous rappeler ce qui compte vraiment. Deuxième raison, verset 6, Paul va bientôt mourir et Timothée doit reprendre le flambeau. Verset 6, « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. » Donc on pourrait dire, oui, c'est juste une raison par rapport à Timothée. Là. Pourquoi il doit prêcher la parole? C'est parce que le prédicateur principal, là, est en train de mourir, l'apôtre, donc Timothée doit reprendre le flambeau. Oui, mais c'est plus que ça. Si on regarde la suite, Paul a tenu bon parce que la parole était au centre de sa vie. Regardez comment il le dit. Verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. » J'ai gardé la foi. On revient au langage du chapitre 2, de l'athlète, du soldat. J'ai combattu le bon combat. J'ai vécu pour plaire à Jésus, mon officier qui m'a recruté. J'ai couru la course selon les règles. Je n'ai pas été disqualifié. J'ai gardé la foi parce que tout le monde et Satan veut nous faire chuter, veut nous faire croire que Dieu n'existe pas, que toute cette histoire, c'est une fable. Et donc Paul est vraiment en train d'ici de montrer sa vie comme un exemple. Prêche la parole, accroche-toi à la parole, combat le bon combat, cours la course, achève la course, tiens bon dans la foi. Et il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée, il veut nous encourager tous, là au verset 8, le Seigneur, le juste juge me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » La couronne de justice, cette vie parfaite que Dieu va nous donner, cette récompense au jour où Jésus reviendra, sera donnée à tous ceux qui auront placé leur foi, leur confiance en Jésus. Et pas juste pour Paul, elle sera à tous ceux, et le test, la façon de voir, la phrase que Paul a choisie pour décrire ces persona, c'est ceux qui attendent avec amour sa venue. Et franchement, si vous avez déjà vu des films comme Mémoire dans la peau de Jason Bourne, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a plusieurs films de ce genre où quelqu'un se réveille sur une plage, dans un hôtel, quelque part, il a complètement perdu la mémoire. On est comme ça. À partir du moment où Dieu nous sauve, ce livre-là est un travail quotidien. Dieu œuvre à travers ce livre pour nous rappeler qui nous étions sans lui, ce qu'il a fait pour nous sauver et ce qu'il veut pour nous. On est complètement amnésique et jour après jour, on se place à la lumière de ce livre-là pour que Dieu nous rappelle toutes ces choses, nous redonne la mémoire de qu'est-ce que c'était de vivre en relation avec lui. De qu'est-ce que c'était de vivre comme on a été créé, de vivre dans le jardin d'Éden, comme il voulait qu'on soit. On a ce livre et c'est super important de prêcher la parole. Et donc, pour nous tous qui écoutons régulièrement la parole, qui avons la parole chez nous, la question c'est est-ce que c'est clair pour moi que j'ai besoin de ça tellement plus que je ne réalise? Et peut-être un mot d'encouragement. Parce que les plans de lecture de la Bible qu'on donne en janvier sont vite des trucs culpabilisants et on se dit « punaise, je suis déjà en retard sur mon plan, on n'est même pas fin janvier ». Et c'est vraiment des cases à cocher. Il ne faut pas voir la Bible ou la lecture de la Bible comme des cases à cocher, comme un devoir religieux parmi tant d'autres. La Bible, c'est Anna qui me parlait de ça, c'est comme aller au garage. Et en fait, notre voiture, elle est vraiment, vraiment mal en point. On est amnésique, je vous rappelle. Notre voiture, notre vie, elle est vraiment mal en point. Et on va tous les jours au garage. Et Dieu, c'est le garagiste. Ses outils, c'est la Bible. Et chaque jour, il vient diagnostiquer le prochain truc qu'il va réparer, la prochaine chose qu'il veut nous montrer sur sa personne. Et on découvre de plus en plus tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il veut qu'on devienne par son œuvre en nous à travers ce livre. Bon, on va s'arrêter là. Il y aurait énormément de choses d'applications concrètes. Moi, je propose juste qu'on se pose la question. est-ce que je crois? Premièrement, première question, est-ce que je crois que ce livre est le moyen que Dieu va utiliser pour me révéler tout ce que je dois savoir sur lui et sur moi? Est-ce que je crois ça? Deuxième question, si je crois ça, sans parler de cases à cocher, de plans de lecture, qu'est-ce que je fais pour tous les jours me remettre à la lumière de son livre, me mettre à son écoute? Pas pour marquer des points, c'est impossible. Pas pour gagner mon salut, c'est pas assez impossible. Mais pour savoir qui est ce Dieu qui m'a sauvé. Mon amour pour le retour de Jésus va grandir à fur et à mesure que je connais ce Dieu-là. À fur et à mesure que je me rends compte de l'ampleur du sacrifice de Jésus. Et à fur et à mesure que je me rends compte de la profondeur de ma misère sans lui. Puisque l'évangile est au centre de la Bible doit être au centre de notre vie d'église et de notre vie individuelle. Dimanche prochain, non d'ailleurs, il y a un changement sur le planning, dans 15 jours, on va terminer la série, et on va voir que, je peux juste vous le dire tout de suite, mais le verset suivant, on voit quelqu'un qui a chuté, un collaborateur de Paul, versets 9 et 10. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Le monde et Satan veulent nous faire chuter. Et est-ce que je vais aimer Jésus ou est-ce que je vais aimer le monde présent en croyant que ce n'est pas vrai le retour de Jésus, que ce n'est pas vrai qu'il va vraiment restaurer la terre et nous instaurer un royaume? Et donc, est-ce que vraiment, si je crois que ce livre est de Dieu, qu'est-ce que je fais pour me mettre à la lumière de ce livre? Et si c'est la première fois que tu entends un message de la Bible, prends la Bible qu'on t'a offert, viens nous voir, s'il vous plaît, creusez par vous-même. C'est vraiment important d'être convaincu pleinement, chacun, individuellement. Je vais prier pour nous tous. Père, merci tellement pour ta grâce que tu nous as pas laissés dans notre rébellion. Tu ne nous as pas laissés dans l'obscurité de notre péché, dans les ténèbres de notre indépendance. Tu es venu nous chercher. Tu as parlé à travers ton esprit, tes prophètes, tes apôtres, et tu nous as donné ta parole. S'il te plaît, aide-nous. Tu vois combien tous les jours, c'est un danger qui me guette tous, d'accorder plus d'importance à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent, plutôt que ce que tu dis et ce que tu penses. S'il te plaît, permets qu'on soit une église, Père, qui est vraiment centrée sur ta parole. Tu vois, Père, qu'on est des prédicateurs pécheurs, on est un auditoire pécheur, et on a du mal à comprendre, on a du mal à être clair. S'il te plaît, aide-nous malgré tout à nous faire progresser, à te faire de plus en plus confiance pour toute ta vie. Amen. Et je reste ici. Et Bruno, est-ce que tu veux bien aussi? Et Mathieu, Laurence. Donc en mars, je sais que ça fait déjà pas mal de mois, mais j'espère que vous en souvenez. En mars, l'Église a reconnu Mathieu Fusier comme ancien, donc un des pasteurs de l'Église. Donc on est trois désormais. Et entre la vie chargée, des problèmes de santé, tout ça, on n'a pas officialiser ça avec toute l'église parce qu'il y a moins de membres votants que de personnes au culte. Donc on veut vraiment que vous sachiez que Mathieu est devenu un des responsables de l'église. Je vais vous lire, on va vous lire l'article dans notre règlement intérieur qui définit qu'est-ce que c'est un ancien. Je vais poser la question à Mathieu si devant Dieu et avec l'aide de Dieu il s'engage à faire ça. Et puis ensuite on va se rassembler tous autour des fusiers. Et on va prier pour eux, parce que nous aussi, on a un rôle envers eux. Je vais lire l'article 5 du règlement intérieur. Les anciens de l'Église sont, conformément à ce que dit l'Écriture, des surveillants, des évêques ou des épiscopos. En ce sens, ils veillent à ce que l'Église respecte la moralité, la spiritualité et l'enseignement de la Bible. Ils sont aussi des hommes mûrs, devant encourager et inspirer le cheminement de chacun et de tous. Ils ont pour rôle d'orienter les choix spirituels, doctrinaux et stratégiques de l'Église. Ils doivent surtout se consacrer à l'enseignement et l'étude de la Bible et la prière. Ils sont représentés au CA, dont ils sont membres de droit. Donc Mathieu, merci d'avoir